Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par conséquent, sereinement, calmement, vous rappellera ou vous apprendra, dans ce cas bienvenue au Welcome, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Et ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'une star du cinéma américain d'action, mais il ne l'a pas toujours été. Le dénommé William John Neeson, N-2-E-S-O-N, dit Liam Neeson, né le 7 juin 1952 en Irlande du Nord, un acteur britannico-américain puisqu'il a la double nationalité. Alors comme il est né en Irlande du Nord, et bien ma foi, de confession catholique, il aura été aux premières loges, si l'on veut, du conflit nord-irlandais qui a tellement ensanglanté l'Irlande, la malheureuse Irlande, pour des considération bien connue, et c'est dans cette ambiance eh bien, qu'il poursuit des études pour devenir enseignant, mais découvre très rapidement qu'il n'a pas vraiment de capacité pour l'être et se tourne vers une carrière cinématographique qui, et ma foi c'est rien de le dire, lui aura plutôt réussi et qui commence en 1978 avec un film intitulé Le Voyage du Pèlerin, duquel je l'avoue j'ignore tout. On le voit 2 ans plus tard dans le fameux Excalibur de John Boorman, une visitation nouvelle des romans des Chevaliers de la Table Ronde qui, ma foi, rencontre un très très gros succès qui permet donc à Liam Neeson de se faire un petit nom. On le voit ensuite, dans Krull, notamment de Peter Yates en 83, Le Bounty, encore une adaptation du Bounty en 1984 aux côtés de Mel Gibson, et la première... Premier rôle d'importance, en tout cas, où on le remarque, eh bien, Liam Neeson obtient dans un film de Roland Joffé, tourné en 1986, qui s'appelle Mission, dans les rôles principaux duquel on retrouve Robert De Niro et Jeremy Irons. Liam Neeson n'y joue qu'un rôle secondaire, mais ma foi, assez remarquable pour un film lui-même très remarqué, qui remporte une palme d'or assez controversée cette année-là. On en a retenu surtout, et comment l'éviter, une musique évidemment ultra célébrissimo connue, une musique du cher Ennio Morricone. Je vais vous la laisser écouter et vous allez immédiatement la reconnaître. Mission dans 24 notes secondes. Un extrait bien apaisé d'une partition très très connue, et c'est rien de le dire, la musique d'Ennio Morricone pour le Mission de Roland Joffé, tourné en 1986, qui évoque eh bien, la mission des jésuites quelque part à la fin du XVIIIe siècle en Amérique du Sud, et avec un film relativement tragique, parfois un peu brouillon, il faut le reconnaître, d'où sans doute l'accueil mitigé des critiques de films et l'accueil parfois beaucoup plus conséquent du public, et qui permet à Liam Neeson, donc notre héros du jour, eh bien, de connaître plus qu'un début de célébrité. Alors après, on le voit un peu dans des films de tout genre. Les amateurs auront noté le cultissime Darkman, tourné en 1990 par Sam Raimi, l'homme d'Evil Dead et Evil Dead 2, mais je le dis aux amateurs qui le savent déjà, et où il était méconnaissable, puisque Darkman, c'est une sorte de super-héros un peu noir dans lequel il était tout à fait réussi, mais on ne le reconnaissait pas. On le voit aussi chez Woody Allen, comme beaucoup, hein, beaucoup d'acteurs ou d'actrices ont tourné des petits rôles chez Woody Allen, et en l'espèce, c'est le Woody Allen de 1992, qui n'est certainement pas un des plus connus. Ça s'appelait Mari et Femme, tout simplement Husband and Wife, ce qui a toujours été le sujet de prédilection de Woody Allen. Et en 1993, eh bien, il retrouve une deuxième fois une sorte de rôle de sa vie. Il y en aura un troisième, on le verra tout à l'heure, puisqu'il est l'interprète principal de La Liste de Schindler, un film de Steven Spielberg, alors qu'il remporta une pluie d'Oscars. Je ne sais pas si ma petite fiche me les précise. Si c'est le cas, je vous le dirai. Sinon, eh bien, on s'en passera. Un film qui évoque donc la vie d'Oscar Schindler, qui pendant la Seconde Guerre mondiale et au péril de sa vie, eh bien, s'efforce de sauver les Juifs de la Shoah, puisque l'enjeu principal du film, c'est bien la Shoah. Le film est tourné en noir et blanc. Ma foi, lui aussi, un peu comme Mission, aura été assez controversé, puisqu'il y avait depuis longtemps une sorte de doxa, va-t-on dire, qui disait qu'on ne pouvait pas filmer l'Holocauste. Ma foi, Steven Spielberg s'y est essayé. Il a rencontré un grand succès critique commercial. Pour le reste, je laisse à chacun la capacité d'estimer par lui-même. En tout cas, c'était une grande interprétation pour Liam Neeson. La musique était évidemment signée de John Williams, le collaborateur habituel de Steven Spielberg. On en écoute un extrait, La Liste de Schindler, dans 24 notes secondes. Thank you. Que dire, rien sans doute, un extrait de la bande originale de La Liste de Schindler, un film de Steven Spielberg avec Liam Neeson dans le rôle principal, il faut bien le reconnaître, de Schindler, sans doute un des premiers achèvements de sa carrière déjà fort conséquente en 1993. Alors ça lui permet d'enchaîner sur une série de rôles nobles, on le voit dans des rôles de héros historiques, notamment britanniques ou écossais, ainsi de Rob Roy tourné en 1995 ou de Michael Collins tourné en 1996. Et il tiendra même le rôle de Jean Valjean. Les Misérables, Victor Hugo, ça vous rappelle quelque chose? Oui, le plus grand roman de tous les temps quand même, hein, je vous le dis. Pour un film tourné en 1998 par Billet Auguste, dont on peut dire malheureusement que c'est certainement l'adaptation la plus nulle du roman de Victor Hugo au cinéma. Je dénonce comme ça, personne ne m'en voudra. Et puis, eh bien, j'avais dit qu'il y avait une autre étape dans la carrière de Liam Neeson. En fait, il y en a deux. Alors, la première, eh bien, c'est en 1999 où il obtient un des rôles principaux de Retour de la Guerre des Étoiles, bien des années après. Ça s'appelle La Menace Fantôme, Star Wars épisode 1. Bon, je vous laisse reconstituer la chose. George Lucas est un homme avec un esprit assez tourmenté, mais bon, c'est normal, c'est un génie. Et Liam Neeson, donc je ne vais pas entrer dans les détails de la saga Star Wars, nous n'aurions pas le temps, tient un des rôles principaux et ensuite, eh bien, il le tiendra dans des suites, des séquelles, des films d'animation, que sais-je encore. Il tiendra ce même rôle d'un personnage dont je vais vous retrouver le nom, mais on le retrouvera peut-être après avoir écouté un extrait musical. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire écouter un extrait musical de La Menace Fantôme, qu'il est méchant. On va écouter plutôt un extrait musical d'un film tourné par Ridley Scott en 2005. Ça s'appelait Kingdom of Heaven. C'était consacré aux croisades, tout simplement, un film fort bienvenu. Ridley Scott ensuite fera de ses adaptations historiques une sorte de routine de moins en moins convaincante, mais il y aura quand même Gladiator dans le tas, il faut bien le reconnaître. Mais Kingdom of Heaven, ma foi, c'était plutôt bienvenu et ça nous permet aussi d'écouter, c'est un, hélas un peu rare, un extrait d'une bande originale signée de Harry Gregson-Williams qui est aussi bienvenu. On écoute l'extrait, le film, à ma connaissance, n'a pas eu de titre français, donc ça s'appelle bien Kingdom of Heaven dans 24 notes secondes. Eh bien, je l'aime décidément très beaucoup, cette musique. Un extrait de la bande originale de Kingdom of Heaven, un film de Ridley Scott tourné en 2005. Une musique d'Harry Gregson-Williams et avec Liam Neeson dans l'un des rôles principaux de cette reconstitution historique des croisades. Alors que pendant que vous vous écoutiez, moi je travaillais. Eh bien oui, moi je travaille pendant les morceaux, messieurs, mesdames. Et donc j'ai retrouvé, honte à moi, j'aurais dû évidemment m'en souvenir, le nom du personnage que Liam Neeson créait dans La Menace Fantôme, l'épisode 1 de Star Wars, le retour en fait de Star Wars bien des années après. Il s'appelait Qui-Gong Jinn, ou après la prononciation, je ne sais pas. C'est un maître Jedi, le mentor d'Obi-Wan Kenobi, dans cette saga Star Wars relativement complexe pour les non-initiés, limpide pour les fans. Et en tout cas, c'était la première donc, incarnation de Liam Neeson pour ce rôle. Mais ensuite, d'après mes petites fiches, eh bien, il le reprit en fait chaque fois que le personnage aura été présent dans une série d'animations, un jeu vidéo, sur un paquet de cornflakes, que sais-je encore. Ma foi, on sait que le marchand est quand même une des composantes principales de la saga Star Wars. Je vous avais promis un troisième ou un quatrième, je ne sais plus, palier pour Liam Neeson. Eh bien, ce fut en 2008. En 2008, on le vit dans le rôle principal de Taken, un film de Pierre Morel qui, comme son titre anglais l'indique, racontait l'enlèvement. Alors, il me semble que c'était la fille de Liam Neeson qui était enlevée et ensuite le gars la retrouvait de façon un peu musclé, et le film qui avait coûté dans les 25 millions de dollars, hein, quelque chose de relativement pas conséquent, en gagna pratiquement 10 fois plus à l'écran, et d'une certaine manière, eh bien, ça cantonna le brave Liam Neeson dans des rôles un peu répétitifs. Alors d'abord, on le vit dans Taken 2, et dans Taken 3, évidemment, tous les deux réalisés par Olivier Mégaton. Et puis surtout, et depuis encore, on le vit dans toute une série de films où il incarne pratiquement à chaque fois le même personnage. Un gars revenu de tout, un ancien flic, un ancien soldat, un ancien mercenaire, un ancien tout ce que vous voulez, et qui est conduit à repartir au turf, si vous voulez m'excuser l'expression, parce qu'il y a des méchants qui lui en veulent, qui en veulent à sa femme, qui en veulent à sa fille, qui en veulent à son chien, que sais-je encore. Et à chaque fois, eh bien, le scénario est un peu répétitif, et on a eu comme cela toute une série de films estimables mais bien oubliables comme Non-Stop, Le Territoire des Loups, Balade entre les tombes, The Passenger, etc., où il a des rôles relativement stéréotypés. Alors on va écouter un extrait d'une bande originale d'un film autre dans lequel Liam Neeson incarne tout simplement le rôle de Zeus, le chef des dieux, si l'on veut. Ça s'appelle Le Choc des Titans. Bon, c'est le remake d'un film des années 80 que vous avez oublié, mais que moi j'avais vu à sa sortie, tout ça ne nous rajeunit pas. Le Choc des Titans, donc une évocation mythologique réalisée par Louis Leterrier, autre grand spécialiste des films d'action. Bon, fois, le film était un peu oubliable. La musique, elle est signée de Rawin Djawadi. Alors Rawin Djawadi, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose si vous avez vu cette série. Comment qu'elle s'appelle déjà cette série où il y a des royaumes? Ah oui, Game of Thrones, voilà, je ne me souvenais plus du nom. Ben oui, Rawin Djawadi, c'est l'homme derrière la série Game of Thrones qui lui permit ensuite eh bien, de passer au cinéma. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, Le Choc des Titans, mais dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà, un extrait de la bande originale du Choc des Titans, un film de Louis Leterrier, alors qui est quand même plus connu pour être à l'initiative, évidemment, de la série du Transporteur avec ce cher Jason. Ah bah tiens, voilà un acteur auquel on n'a pas encore consacré d'émission dans 24 notes secondes. Je le note immédiatement et en direct sur ma petite fiche. Excuse-moi d'abord, Jason, je sais que tu es un peu susceptible, donc voilà, mais la prochaine fois, c'est sûr. Allez, on fait une spéciale double pour Jason dans 24 notes secondes, mais on va rester pour l'instant et pour quasiment conclure avec Liam Neeson, notre héros du jour. Alors, quand je regarde la filmographie de l'homme, on se demande comment il arrive à respirer, parce que franchement, Liam Neeson, c'est quand même le stakhanoviste du cinéma. Il peut tourner 4-5 films par an, mais sans problème, le gars, puisque après 2010, Le Choc des Titans, ben, on le vit cette même année 2010, par exemple, dans L'Agence Touriste, adaptation calamiteuse, il faut bien le reconnaître, au cinéma de la série, fameuse série télévisée avec Monsieur T. Notamment. En 2012, on le vit dans La Colère des Titans, qui était une sorte de suite du Choc des Titans, mais on le vit aussi cette même année 2012 dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, où il reprenait un rôle de méchant qu'il avait déjà tenu, sauf erreur de ma part, dans The Dark Knight, et je ne vous l'avais pas encore cité. On le vit aussi dans Taken 2, etc., etc. Alors j'ai quand même une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'il a failli être James Bond, mais oui, on a proposé, fut un temps, c'était pour GoldenEye, il me semble, on a proposé à Liam Neeson le rôle de James Bond, effectivement, il aurait été tout à fait bienvenu, mais à sa femme de l'époque, Natasha Richardson, qui décéda tragiquement quelques années plus tard, lui a fait une sorte de veto en lui disant que si il tournait James Bond, elle le quitterait, et ma foi, le gars, par amour, eh bien, a accepté de ne pas le faire, et du coup, sa carrière en a pris une toute autre tournure. Il y a parfois des choix bienvenus et d'autres un peu moins. Alors donc, je l'ai dit, une carrière un peu en dents de scie, on va pas se quitter sur ça, mais il faut quand même citer des films plus remarquables, comme Le Silence de Martin Scorsese en 2017, un film assez dur sur les, je dirais, les missions chrétiennes au Japon, et puis un petit bijou, en tout cas pour moi, mais hélas, qu'on n'a pas vu au cinéma, mais sur une plateforme bien connue, ça s'appelle La Ballade de Buster Scruggs de Joel et Ethan Coen, qui est une petite merveille à sketch, et un film, un western, mais dans lequel Liam Neeson tenait un des rôles principaux. Alors on va se quitter un peu curieusement en écoutant la bande originale d'un film dans lequel on ne voit pas Liam Neeson, mais on l'écoute, puisque c'est lui qui joue le rôle d'un monstre, en fait, dans un film intitulé en anglais A Monster Calls, c'est-à-dire un monstre appelle, et en français ça s'appelle Quelques minutes après minuit, une histoire un peu édifiante, il faut le reconnaître, de l'initiation d'une petite fille à la vie et à la mort, puisque sa maman est en train de mourir, et donc il y a un monstre qui, d'une certaine manière, la prend en sympathie et lui apprend ce que c'est que la vie, ce que c'est que la mort. Ma foi, tout ça n'est pas toujours sans quelques mièvreries, mais en tout cas, ça permet d'avoir, et Liam Neeson aura prêté sa voix, comme je l'ai dit, à beaucoup d'autres personnages, mais ça permet d'avoir un ensemble étonnant entre un monstre plutôt réussi, il faut le reconnaître, et puis un acteur à la voix tout à fait puissante, elle aussi, et charmeuse. Le film, il est réalisé par Juan Antonio Bayona, qui fut aussi de ces films un peu répétitifs que j'évoquais tout à l'heure. La musique, elle est signée de Fernando Velasquez. On en écoute un large extrait. Quelques minutes après minuit, mais dans 24 notes secondes. Thank you. Bon, d'abord, vous pouvez arrêter d'appeler. C'est bien Batman Begins et non pas The Dark Knight. Mais c'est pas grave quand même. Allez, au revoir, à bientôt. Fin de 14 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. See you, bye bye.